Voix Afrique.
Le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à tout le monde. Aujourd'hui, édition du mercredi 15 mars 2017, en direct de Washington. Idrissa Seloudia et Anne Albertson. Pour commencer, les titres.
Au Burkina Faso, une école primaire attaquée hier soir à Baraboulé, dans le nord du pays.
Au Sénégal, émeute à Kolda, dans le sud du pays, l'armée a dû intervenir pour rétablir l'ordre.
En Guinée, première audition hier de Toumba Diakité depuis son extradition du Sénégal.
En République démocratique du Congo, l'Église catholique se dit inquiète quant au processus électoral face à une escalade des violences dans le centre du pays.
Démenti à Moscou, des informations sur le déploiement de soldats des forces spéciales russes et de drones dans une base militaire en Égypte, près de la frontière libyenne.
En France, inculpation hier de François Fillon, candidat à la présidence pour détournement de fonds publics.
Publication par une chaîne de télévision américaine d'une partie de la feuille d'impôt 2005 du président Donald Trump.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal.
Au Sénégal, de violentes manifestations ont eu lieu à Kolda, ville située à 670 km au sud de la capitale, Dakar. Plusieurs édifices publics ont été attaqués par des jeunes qui étaient en colère contre la police. Il a fallu l'intervention de l'armée pour ramener le calme, nous dit notre correspondant Seydina Abagay.
Les conducteurs de mototaxis ont violemment attaqué les forces de police de la ville de Kolda, allant jusqu'à saccager les locaux du commissariat central et le domicile du chef de la police locale. L'hôtel de ville et les trésors publics ont aussi été vandalisés et les commerces ont dû fermer boutique. De violentes manifestations ont éclaté à travers toute la ville et la police, dépassée par les événements, a dû battre en retraite. Finalement, c'est l'armée qui a été déployée dans les points stratégiques pour mettre fin aux émeutes et rétablir l'ordre. Les conducteurs de mototaxi estiment que la police est à l'origine de l'accident d'un des leurs et de sa cliente qui sont actuellement admis à l'hôpital régional de Kolda. Un policier aurait poussé le chauffeur et sa passagère dans un ravin, leur occasionnant plusieurs fractures. De son côté, la police nationale précise que c'est le chauffeur de mototaxi qui a perdu le contrôle de son engin en voulant forcer le barrage des forces de l'ordre. À Kolda, un calme relativement précaire est finalement revenu après l'intervention des forces armées. À Dakar, pour la Voix de l'Amérique, Seydina Abagay.
Au Burkina Faso, une école primaire à Baraboulé, dans le nord du pays, a été attaquée hier soir par des éléments non identifiés, selon le maire de cette localité. Aucun autre détail sur cette attaque, dont on ignore aussi le bilan.
En Guinée, le militaire Aboubakar Sidiki, dit Toumba Diakité, a été entendu hier par un juge, sa première audition depuis son retour, selon une source judiciaire. Toumba Diakité, extradé récemment du Sénégal, était recherché pour le massacre d'opposants en 2009 à Conakry. Il a été l'aide de camp du chef de la junte qui a dirigé la Guinée pendant un an, en 2008-2009, le capitaine Moussa Dadis Camara, qu'il avait ensuite tenté de tuer. Nous y reviendrons en seconde partie de cette édition.
En Gambie, c'est en rang dispersé que la coalition au pouvoir ira aux législatives du mois prochain. Un revers pour le président Adama Barrow au moment où il met en œuvre des réformes. Précision de Michel Joseph.
Après sa victoire à l'arraché face à l'ancien président Yahya Jammeh, le président Barrow avait promis que sa coalition continuerait de gouverner comme une famille. Toutefois, des documents publiés cette semaine par la commission électorale gambienne montrent que 239 candidats représentant 9 partis brigueront des sièges à l'Assemblée nationale le mois prochain. 6 de ces partis avaient uni leurs forces pour soutenir le président Barrow et mettre fin à 22 ans de pouvoir de Yahya Jammeh. Selon une source, le désaccord est au sein de la coalition, née des questions de représentation et de répartition des sièges. Sous Jammeh, l'Assemblée nationale n'était qu'une simple caisse de résonance des décisions de l'exécutif. Le nouveau président a promis de collaborer étroitement avec les législateurs, notamment sur les réformes constitutionnelles. Toutefois, l'éclatement de sa coalition pourrait redonner du tonus à l'Alliance patriotique pour la réorientation et la construction. L'ancien parti au pouvoir, qui demeure une force politique en Gambie, malgré le départ en exil de son fondateur, Jammeh.
En République démocratique du Congo, l'Église catholique et la commission chargée d'organiser les élections dans le pays se sont inquiétés mardi d'une escalade des violences dans le centre du pays, secouée par une rébellion qui risque de retarder le processus électoral. L'insécurité qui a fait plusieurs centaines de morts dans 4 provinces centrales risque de retarder l'opération d'inscription des électeurs, a indiqué la commission épiscopale Justice et Paix dans un rapport présenté mardi à Kinshasa. Au Kasaï, l'une des provinces touchées, 4 antennes de la commission électorale nationale indépendante ont été incendiées, a affirmé le président de la CENI, Corneille Nanga, lors de la présentation du rapport.
En Angola, le fournisseur de télévision par satellite, ZAP, propriété de la fille du président José Eduardo dos Santos, a interrompu mardi la diffusion de 2 chaînes portugaises qui ont diffusé récemment des reportages critiquant le régime de Luanda. Son porte-parole a parlé sans autre explication de changement de la grille de diffusion des programmes. En novembre dernier, en tout cas, l'une des chaînes avait par exemple diffusé un reportage dénonçant la corruption du régime du président Eduardo dos Santos intitulé « Sans détour, Angola, un pays riche de 20 millions de pauvres ».
Au Kenya, un accord enfin entre le gouvernement et les représentants des médecins du secteur public. Ils sont parvenus à un arrangement hier pour mettre un terme au conflit social qui a paralysé le système de santé publique du pays pendant 100 jours. Jacques Aristide.
Une grève inhabituellement longue et particulièrement acrimonieuse. Les autorités kenyanes ont plusieurs fois menacé de licenciement les médecins et obtenu que leurs représentants syndicaux soient incarcérés pendant 2 jours le mois dernier. Elles avaient même menacé de recruter des médecins indiens pour remplacer les grévistes. L'accord conclu hier met fin au mouvement, mais c'est un accord de compromis, car de nouveaux pourparlers doivent avoir lieu pour parachever les négociations salariales. Les médecins kényans réclament une importante revalorisation de leur salaire et de meilleures conditions de travail, y compris de meilleurs équipements dans les hôpitaux publics. La hausse salariale, rappelle-t-il, figurait dans un accord paraphé en 2013, mais jamais appliqué. À l'approche des élections prévues en août, cette grève était devenue un dossier épineux et potentiellement dommageable pour le président Uhuru Kenyatta, qui briguera un second mandat.
Libye, officielle du Kremlin et parlementaire en Russie, démonte les informations selon lesquelles Moscou a déployé des soldats de ses forces spéciales et des drones dans une base militaire en Égypte près de la frontière libyenne. De nombreuses informations ont fait état hier d'activités militaires russes près de la localité méditerranéenne de Sidi Barani, située à une centaine de kilomètres de la frontière entre la Libye et l'Égypte. Selon les mêmes informations, citant des officiels américains qui ont requis l'anonymat, cette ingérence accrue de la Russie pourrait faire partie d'une décision de Moscou d'appuyer le maréchal renégat libyen Khalifa Haftar.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En France, le candidat de la droite à la présidentielle, François Fillon, empêtré depuis des semaines dans les soupçons d'emploi fictif, a été inculpé hier pour détournement de fonds publics à moins de 6 semaines du premier tour. Claire Morin-Gibourg.
Convoqué initialement aujourd'hui par les 3 juges chargés du dossier, François Fillon a été mis en examen hier, l'audition ayant été avancée pour plus de sérénité, a déclaré à l'AFP son avocat, maître Antonin Lévy. Le candidat conservateur a été inculpé notamment pour détournement de fonds publics et recel et complicité d'abus de biens sociaux. Les juges ont donc estimé qu'il existait des indices graves et concordants après plusieurs semaines d'audition et de perquisition déclenchées par des soupçons d'emploi fictif au bénéfice de son épouse Pénélope et de ses enfants. C'est la première fois qu'un candidat majeur sous le coup d'une inculpation va se présenter à l'élection présidentielle française. François Fillon, qui a dénoncé une chasse à l'homme, a continué à mener campagne en essayant de recentrer le débat sur son programme politique. Le soupçon d'emploi fictif et les sommes totales en jeu, issues notamment de deniers publics, ont durement écorné l'image du candidat qui s'était présenté en champion de la morale en politique au début de la campagne.
Enfin, la Maison-Blanche a révélé hier dans un communiqué que le président Donald Trump avait payé 38 millions de dollars d'impôts en 2005 sur des revenus de 150 millions. C'était à quelques minutes de la publication annoncée auparavant par une chaîne de télévision de sa feuille d'impôts. M. Trump a toujours refusé de publier ses déclarations de revenus, contrairement à la tradition politique pour les candidats à l'élection présidentielle américaine. Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Écho, Claire Morin-Gibault.
Le Premier ministre burkinabé, Paul Kabatieba, a rencontré à Ouagadougou Amadou Koné, le ministre ivoirien des Transports, pour tenter d'améliorer les transports entre les deux pays. L'accélération de la réhabilitation du chemin de fer Abidjan-Ouagadougou-Kaya a été évoquée, ainsi qu'un renforcement entre Air Burkina et Air Côte d'Ivoire. Ils ont également convenu qu'une meilleure fluidité du trafic routier devait être trouvée. Le Sud-Africain Teraco a annoncé une levée de fonds de 1,2 milliard de rand auprès de Barclays Africa. Cette somme va lui permettre d'achever la construction du plus grand centre de gestion de données du continent, un data center qui sera localisé à l'est de Johannesburg. Fondé en 2008, Teraco fait face à une hausse de la demande en termes de services de données mobiles et de technologies basées sur le cloud. Lomé abrite depuis lundi 13 mars la première session du comité techniques spécialisées de l'Union africaine sur les transports, les infrastructures transcontinentales et interrégionales, l'énergie et le tourisme. Sur le thème « Financer l'infrastructure en Afrique », ces réunions visent à évaluer les progrès et les réalisations atteintes dans la mise en œuvre des grands programmes et projets d'infrastructures régionaux et continentaux à ce jour, mais également de trouver des solutions pour accélérer leur mise en œuvre.
À présent, les sports avec Nicolas Pineau. Nicolas, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
L'exploit de Leicester en Ligue des Champions.
Et pour sa première participation en Ligue des Champions, Leicester accède au quart de finale après sa victoire hier soir 2-0 sur le FC Séville, qui a été réduit à 10 après l'expulsion de Samir Nasri. Les Anglais ont d'abord marqué par leur capitaine Wes Morgan à la 27e minute, puis Mark Albrighton a doublé la mise sur une mauvaise relance d'Adil Rami de la tête d'une frappe dans la surface, 2-0. Quant à la Juventus Turin, elle a confirmé en dominant Porto 1-0 à domicile. Elle se qualifie pour les quarts de finale. Les Italiens s'en sont remis à un pénalty de Paolo Dybala à la 42e minute pour l'emporter. À noter, maigre consolation pour Porto, le gardien espagnol Iker Casillas, 35 ans, est devenu hier avec Porto le joueur le plus capé dans l'histoire des compétitions organisées par l'UEFA avec 175 matchs disputés.
À suivre ce mercredi.
Malgré l'avantage de 2 buts que possède Manchester City, grâce à sa victoire à l'aller 5-3, l'entraîneur des Anglais Pep Guardiola, fidèle à sa philosophie, estime que son équipe va jouer ce mercredi à Louis II face à Monaco pour se qualifier. L'autre rencontre tout à l'heure, Atlético Madrid, Bayer Leverkusen. Blessé, Kevin Gamero ne jouera pas. À l'inverse, Fernando Torres est de retour dans le groupe de l'Atlético Madrid. Au match aller, les Colchoneros s'étaient imposés nettement en Allemagne. Victoire 4-2.
La pression monte à Addis Abeba où aura lieu jeudi l'élection du président de la CAF.
On rappelle qu'Issa Hayatou est candidat à un 8e mandat à la tête de la Confédération africaine de football. Le Camerounais est en poste depuis 1988. Ahmad Ahmad, le président de la Fédération malgache de football, est le seul candidat qui s'oppose à Issa Hayatou. On parle à présent du gouvernement du Nigeria qui a ordonné au président de la fédération, Amadou Pinnick, de voter justement pour le Camerounais et non pour le Malgache comme il souhaitait le faire. Il s'agit là d'une ingérence caractérisée dans les affaires du football en contravention avec les usages de la FIFA et même de la CAF.
Michael Essien a signé cette semaine en Indonésie.
Libre depuis son départ du Panathinaikos en fin de saison dernière, Michael Essien, 34 ans, est resté tranquille pendant les 6 premiers mois de la saison. Mais cette semaine, l'ancien milieu de terrain de Lyon, Chelsea et du Real Madrid a décidé de rebondir cap sur l'Indonésie. Il a signé au club de Persing Bandung.
Ronaldinho attendu au Pakistan pour promouvoir le football.
Oui, Ronaldinho va prochainement se rendre au Pakistan en en espérant promouvoir le football dans un pays fou de cricket. Sa visite a été mise sur pied par le Leisure Leagues, organisme basé en Grande-Bretagne, qui organise des tournois avec des équipes comptant 5 à 7 joueurs. Allez Drissa, je vous laisse donner quelques résultats de NBA, le championnat de basket nord-américain.
Détroit et Cleveland, 96-128. Oklahoma City et Brooklyn Nets, 122-104. Indiana et New York Knicks, 81-87. Portland et New Orleans Pelicans, 77-100.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sédoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. L'ancien ministre tchadien des Affaires étrangères, Moussa Faki Mahamat, a pris ses nouvelles fonctions de président de la Commission de l'Union africaine hier, promettant de réformer l'institution et de s'attaquer aux nombreuses crises du continent. Le Tchadien, âgé de 56 ans, a été élu en janvier après avoir été, depuis 2008, le chef de la diplomatie de son pays, allié de l'Occident dans la lutte anti-djihadiste et infidèle du président Idriss Déby Itno. John Lyndon a joint à N'Djamena Michael Didama, directeur de publication du journal Le Temps.
D'abord, en tant que Tchadien, c'est une fierté qu'un des nôtres soit à la tête de la Commission de l'Union africaine. Maintenant, ce n'est pas une partie de plaisir à Addis Abeba. Nous savons que l'élection de Moussa Faki a laissé des traces parce que ça a été très difficile pour lui, pour qu'il accède à la tête de l'Union africaine. Il lui faudra chercher à réparer tous les dégâts que son élection a posé au sein de l'Union africaine. Donc quand il n'y a pas de dégâts, sûrement il y a des divisions et des frustrations, mais cela fait partie du jeu. Mais surtout, il y a des questions importantes comme l'arrivée du Maroc, il y a la question de l'immigration de ces Africains qui finissent dans la Méditerranée, il y a la question de la pauvreté, il y a les enjeux du XXIe siècle, beaucoup de choses qui attendent Faki et surtout la mutation même de l'Union africaine qui est considérée comme juste un syndicat de chefs d'État.
On sait qu'il a été ministre des Affaires étrangères au Tchad, un pays qui fait face à beaucoup de problèmes sociopolitiques. Mais est-ce que cette expérience est suffisante pour qu'il puisse relever tous ces défis qu'il attend à l'Union africaine?
Cette expérience est quand même assez importante parce que M. Faki a dirigé pendant de très longues années la diplomatie tchadienne. Il est pratiquement le visage de la diplomatie tchadienne pendant une décennie, si je ne me trompe pas. Et pendant cette décennie, le Tchad a été sur tous les terrains, notamment de la lutte contre Boko Haram et sur beaucoup de terrains. Et M. Faki a été là et je pense qu'il a vraiment défendu les couleurs nationales. Maintenant, au niveau de l'Union africaine, on se situe sur un plan continental. C'est vrai que l'expérience acquise au niveau de la diplomatie tchadienne est importante, mais il aura sûrement besoin de beaucoup d'expérience des autres cadres africains et d'expertise aussi d'autres Africains dans la mission qu'il attend. Et c'est une mission lourde, je répète une fois de plus.
Alors, on a souvent vu l'Union africaine se mettre en marge ou être mise en marge lorsqu'il s'agit de traiter des grands problèmes de ce monde, y compris lorsqu'ils ont trait à l'Afrique. On l'a vu avec le cas Kadhafi. Est-ce que vous pensez que c'est un monsieur qui peut frapper du poing sur la table et faire entendre la voix de l'Afrique?
Bon, il ne faut pas perdre de vue que Moussa Faki, le candidat du Tchad, et aussi du président Idriss Déby, qui a toujours dénoncé au plus fort moment de la lutte de l'OTAN contre Gaddafi, il a toujours dénoncé cette inaction de l'Union africaine et surtout cette ingérence des Occidentaux sur les questions africaines. Et je pense que Moussa Faki, sur cette ligne, et il doit effectivement chercher à donner ses lettres de noblesse à l'Union africaine, qui souvent a été mis de côté et qui fait quelquefois de faire valoir. Il est temps que l'Union africaine occupe la place qu'il lui faut, surtout quand il s'agit de l'Afrique. Il est important que l'Union africaine soit en tête et que le point de l'Union africaine prime. Et quand je dis prime, cela ne doit pas aussi être le point de ceux qui oppriment leur peuple. Ça, ce sont des questions assez importantes. On sait qu'en Afrique, il y a des pays qui ont fait des avancées importantes en matière de démocratie, d'autres qui n'ont pas tout bougé, d'autres aussi qui ont des chefs d'État qui ne se soucient pas souvent du bien-être de leur peuple. Donc tout cela doit être pris en compte par Moussa Faki parce que les Africains ont changé, le monde a changé et l'Afrique, les Africains aussi doivent changer et les Africains doivent prendre en main le destin de leur continent.
Michael Didama, directeur de publication du journal Le Temps.
Dans
Washington Forum ce jeudi 16 mars, on décrypte le retour du Maroc au sein de l'Union africaine. La grande tournée de Mohamed VI, de la Zambie à la Guinée, en passant par la Côte d'Ivoire. Une offensive diplomatique remarquée, mais quels enjeux économiques et politiques? Aussi la question épineuse du Sahara occidental. Quel avenir pour le Front Polisario? Quelles sont les avancées du Maroc sur ce conflit vieux de 40 ans? Laissez-nous vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique et rendez-vous ce jeudi à 20h temps universel avec Tatiana Mosso et ses invités.
Plusieurs organisations de défense des droits de l'homme saluent l'extradition dimanche de Aboubacar Toumba Diakité, ex-aide de camp de l'ancien président guinéen Moussa Dadis Camara, accusé dans le massacre du 28 septembre 2009 à Conakry. La répression d'une manifestation de l'opposition guinéenne avait fait 157 morts et plus de 100 femmes violées selon les Nations Unies. François Patuel, spécialiste de la Guinée à Amnesty International, espère que la décision du Sénégal d'extrader Toumba Diakité est un pas important vers la vérité dans cette affaire.
Toumba Diakité, qui était le chef de la garde présidentielle, le chef des Pérés Rouges, au moment du massacre du 28 septembre, a été extradé le 12 mars vers la Guinée. Pour Amnesty International, c'est un grand pas pour la justice en Guinée. Maintenant, on dit également que c'est le moment pour les autorités guinéennes d'organiser un procès pour l'affaire du 28 septembre, un procès qui réponde également aux standards internationaux en matière de procès équitable.
La CPI a aussi ouvert un examen préliminaire sur les massacres du 28 septembre. Faut-il privilégier la justice guinéenne ou la justice internationale dans cette affaire?
C'est le principe de complémentarité qui s'applique dans l'affaire du 28 septembre. Donc, je pense qu'il y a cet effort déjà des autorités guinéennes d'organiser un procès. C'est une procédure qui est longue. Hein. Le massacre a eu lieu le 28 septembre 2009. Il y a eu plus de 150 personnes qui ont été tuées, une centaine de femmes violées et plus de 1500 blessées. Et depuis, les victimes et leurs familles demandent la justice. Les dossiers avancent très lentement. Au regard de la justice guinéenne, il y a 14 personnes qui ont été inculpées. Il y en a encore qui sont, pour vous dire, dans des positions de responsabilité aujourd'hui en Guinée. Il y a Moussa Dadis Camara qui est également au Burkina Faso depuis le massacre du 28 septembre. Donc les choses avancent lentement. On espère que l'extradition de Toumba Diakité va accélérer le processus.
Vous pensez que Toumba Diakité pourra bénéficier d'un procès équitable en Guinée?
Les autorités guinéennes ont donné toutes les assurances que, à la fois, sa sécurité serait assurée en Guinée. Ils ont également, à plusieurs reprises, insisté sur le fait qu'ils allaient organiser un procès équitable qui répond aux standards internationaux. Maintenant, ce qu'on les engage à faire, c'est d'organiser ce procès dans les plus brefs délais. Pour l'instant, c'est trop tôt pour dire si oui ou non le procès serait équitable. Il faut tenir les autorités guinéennes face à leur engagement et il faut qu'elles tiennent maintenant cet engagement dans les plus brefs délais pour les victimes du massacre du 28 septembre et pour leurs familles.
Toumba n'est pas le seul mis en cause et le cas d'Addis Camara. Est-ce que vous pensez que l'ex-chef de la junte devrait répondre à la justice de son pays?
Il y a 14 personnes qui ont été inculpées dans l'affaire du 28 septembre, dont l'ancien président d'Addis Camara. Il y a encore des gens aujourd'hui dans des positions officielles en Guinée sont mis en cause dans le dossier du 28 septembre. Très inquiétant, hein, on s'inquiète du fait qu'il pourrait ralentir par exemple la procédure. Donc il faut aussi que ces personnes-là soient mises par exemple en congé administratif pour s'assurer qu'ils n'influencent pas de manière négative la procédure qui est engagée pour l'affaire du 28 septembre.
François Patuel d'Amnesty International répondait aux questions d'Abdourahman Dia. C'est demain que doit entrer en vigueur le décret migratoire révisé du président Donald Trump. Par crainte d'être arrêté et expulsé, de nombreux sans-papiers étaient partis pour le Canada après la publication le 27 janvier de la première version. Mardi, l'opposition canadienne a demandé au gouvernement de dénoncer l'accord signé en 2004 avec les États-Unis sur les demandeurs d'asile, et ce afin de protéger ceux qui risquent leur vie pour chercher refuge au Canada. Timothée Donangmaï a joint à Montréal Chika Kanyuri, éditeur et rédacteur en chef du magazine Transatlantique.
C'est l'accord du troisième pays sûr qui fait que les demandeurs d'asile qui viennent des États-Unis, s'ils passent à la frontière canadienne, sont directement refoulés sur les États-Unis. Pour dire que les États-Unis sont un pays démocratique et qui peut leur donner, le Canada ne peut pas leur donner plus que ça. Et que donc, ils considèrent que les États-Unis ont les moyens et la neutralité nécessaire pour analyser leur dossier. Or, actuellement, depuis le changement de régime aux États-Unis, l'opposition canadienne, notamment le nouveau parti démocratique qui est un peu plus à gauche, dit qu'il est grand temps que le Canada, qui officiellement affiche une autre politique, la politique qui dit que lui, il est pour l'immigration, surtout avec les musulmans aussi. Quand on sait qu'il y a eu des pays musulmans dont on ne veut plus l'entrée aux États-Unis, des ressortissants, on dit que le Canada, donc, clairement, il est en conflit avec la politique américaine de l'immigration.
Et quelle est la conséquence aujourd'hui de cette politique, étant donné que nombre de sans-papiers vont au Canada?
La conséquence, c'est que les sans-papiers, et c'est pour ça d'ailleurs que les sans-papiers, en réalité, avant cet accord, les sans-papiers arrivaient à la douane canadienne. Clairement, ils demandaient l'asile politique, même en revenant des États-Unis. Mais depuis cet accord, ils ne passent plus par les douanes. Donc, ils cherchent à entrer au Canada illégalement. En disant qu'illégalement, il faut entrer sur le territoire sans qu'on ne soit vu pour ne pas être refoulé. Et à partir de ce moment-là, d'ailleurs, c'est le boulot qu'ils sont en train de faire actuellement des passeurs, quoi, pour essayer de les envoyer au Canada, mais pas par les douanes.
Et c'est une pratique aujourd'hui très dangereuse en cette saison hivernale où il y a de la neige partout.
Absolument, c'est dangereux. Il y a déjà eu des gens qui ont été amputés. Il y a aussi aujourd'hui un Ivoirien qui a l'hôpital dans un état assez sérieux. C'est une situation qui risque d'être assez dangereuse, d'autant plus qu'en réalité, comme vous le savez, le Canada n'a pas les moyens non plus de recevoir tous les immigrants illégaux qu'il y a aux États-Unis. Et que même ici, il y a un problème. Il y a un sondage il y a à peine 2 jours qui a dit que les gens n'aiment pas plus que ça, surtout l'arrivée. On sent qu'il y a aussi, même si elle est à peu près à 30%, il y a aussi dans la population canadienne une méfiance envers, par exemple, les musulmans.
C'était Chika Kanyuri, éditeur et rédacteur en chef du magazine Transatlantique à Montréal. En France, le candidat de la droite à la présidentielle, François Fillon, a été inculpé mardi par la justice française, notamment pour détournement de fonds publics dans l'enquête sur les soupçons d'emploi fictifs de son épouse et ses enfants. La convocation chez les juges est intervenue avec 24 heures d'avance sur la date qu'il avait lui-même annoncée publiquement. Joint par Tatiana Mosso, le politologue Jérôme Sainte-Marie.
Nous vivons une campagne exceptionnelle en ce sens que c'est la première fois qu'on a une telle imbrication des affaires judiciaires et donc de l'action de la justice, de la magistrature, dans le cours de la vie politique et plus précisément que ce grand rendez-vous démocratique qu'est l'élection présidentielle où 80% des gens vont voter, c'est la dernière élection française où les gens vont massivement voter, ce grand rendez-vous est très largement troublé par cette actualité judiciaire.
François Fillon avait dit ces derniers jours qu'il était déterminé à aller jusqu'au bout de sa campagne même en cas d'inculpation. Est-ce qu'aujourd'hui c'est encore possible ?
C'est certainement possible pour François Fillon, dont la candidature a connu le paroxysme de sa crise il y a une dizaine de jours. Il y a une dizaine de jours, on avait compris qu'il serait mis en examen et compte tenu de ce qu'il avait promis, on pouvait penser que sa candidature était remise en cause. C'est il y a une dizaine de jours que l'on évoquait la possibilité qu'Alain Juppé le remplace. Depuis le meeting très réussi de son point de vue du Trocadéro, donc depuis 10 jours, la candidature de François Fillon est certaine et la crise interne à la droite a commencé en réalité à s'apaiser. Tout le monde avait anticipé que François Fillon serait mis en examen. Donc ce qui se passe aujourd'hui n'est pas aussi décisif qu'on le croit.
Finalement, c'est une droite quand même unie qui affrontera le premier tour ?
Très probablement. Les centristes de l'UDI sont restés finalement dans la campagne de François Fillon, même s'ils ne sont pas très engagés. Et on s'est rendu compte qu'au plus fort de la crise, encore 18% des électeurs proclamaient leur intention d'aller voter pour François Fillon. Il a donc un socle très très large. S'il gagnait quelques points, il pourrait de nouveau se qualifier pour le second tour. C'est finalement la grande surprise a été la solidité de ce socle. socle-là. Il a perdu, certes, le tiers des intentions de vote depuis la fin des primaires de la droite, il y a désormais 3 mois. Avec un socle 18%, il peut espérer être présent au second tour de l'élection présidentielle, très probablement alors face à Marine Le Pen.
Face à Marine Le Pen et Emmanuel Macron, est-ce qu'il pourrait jouer les outsiders ou les troubles faits?
Actuellement, Emmanuel Macron est en seconde position. Il est nettement devant François Fillon, mais avec un électorat beaucoup moins assuré de son choix. C'est une construction très rapide qui s'est fait largement par défaut. Emmanuel Macron a avant tout profité des difficultés de la gauche et de la droite. Il n'est pas sûr que désormais nous rentrons dans l'atmosphère de la vraie campagne électorale, avec le choc des projets, avec des débats, que cet amalgame d'électeurs autour d'Emmanuel Macron soit très solide. Inversement, François Fillon, lui, sait qu'il peut compter sur une base de droite très classique, assez âgé d'ailleurs, mais qui ne l'abandonnera pas.
C'était le politologue Jérôme Sainte-Marie. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sedoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.